Le saule et le buis trempaient d'humidité et de langueur ce séjour des morts. Ah, le romanesque des morts, ce feuillage funèbre, ce silence, cette terre soulevée et mouillée, les morts. Antoine contemplait, le cœur brisé, ce peu de choses, ce rien, ce vraiment rien, que sont les morts. Petit cimetière en désordre, où le ménage n'est point fait, où les morts ont à souffrir d'oubli et de négligence, parce que, d'abord, il faut servir les vivants. La tristesse, la douleur, suintait de la pierre bondée, du feuillage lyrique épanché, du mur moussu et fendu, des couronnes qui survivent au regret, des vases, des pots renversés. Et Antoine Arnaud, à force de folie, se mettait à jouer, à rire. « Puisque ce n'est rien, pensait-il, puisque c'est le néant et rien, puisque c'est au fond ridicule et révoltant, puéril et médiocre, quelle gravité me tient ici courbée, plus emplie de rêves, que devant un cercle de Dieu ?» Et voici qu'il eut l'idée d'Élisabeth. Et il frissonna comme un esprit qui ne savait pas, comme Adam à qui on montre la mort. Violemment, il arracha cette image de la pensée. Mais en rentrant chez lui, dans la douceur de ce soir-là, il demanda à Élisabeth, avec une voix si tremblante qu'elle en fut surprise, « Est-ce que vous vous ennuyez, petite ?» Elle répondit que non, qu'elle ne s'ennuyait pas auprès de lui. Mais il lui demandait encore si elle ne voulait rien, si elle ne voulait pas se distraire et causer, si elle ne voulait pas voir quelquefois André Charme. Elle, gênée, ne savait que dire à Antoine. Elle l'avait vu si troublée pour deux lettres qu'elle avait reçues du jeune homme qu'elle murmura. « Je ne sais pas, j'aurais peut-être voulu causer quelquefois avec lui. Il est intelligent, il m'a fait de jolis vers, mais je crois que cela vous fâche. » Et il s'écria avec tant d'ardeur, d'étonnement et de sincérité, « Comment puis-je me fâcher pour cela, mon ami, pensez-vous » Qu'Élisabeth ne sut point si Antoine, en cet instant, était sublime ou s'il était un peu comique. Et elle le regardait, de côté, avec défiance, comme un fou. Mais il l'avait aimée, en cette minute-là, d'une manière qui avait arraché en lui son âme. Il laissa revenir André. Il ne s'opposait pas à ce qu'Élisabeth et le jeune homme restassent ensemble. Il quittait la pièce et revenait avec un même impassible visage. Sa jalousie, étendue au-delà des limites, ne recherchait pas de cran. Son désespoir infini renonçait. Quand le cœur n'a qu'une certaine somme de détresse, il agit, mais celui qui a toute sa détresse, il s'en remet au destin. Antoine redoutait Élisabeth. Il ne croyait plus rien d'elle. Lorsqu'elle disait « oui » ou « non », pourquoi aurait-il cru que c'était cela? Les enfants mentent. Les femmes mentent pour éviter les reproches et leur visage ne perd pas de sa candeur. Le mensonge, c'est une sincérité que l'on a avec soi-même. Quand Antoine se fut trouvé sans cesse sur le chemin des jeunes gens, pouvait-il empêcher que leurs lèvres, sous ses yeux mêmes, ne préméditassent le baiser? Pouvait-il empêcher qu'Élisabeth ne désirât le jeune homme, que par l'esprit elle ne l'absorbât, et qu'ainsi elle ne mêlât à son rêve et à son sang ce délicieux fruit humain? Il les laissait ensemble. La lassitude qu'éprouvait Élisabeth lui rendait sensible et gracieuse la chaste présence d'André. Et Antoine voyait bien ce que pouvaient être ses entretiens, séance de légers discours où l'adolescent veut étonner, où la jeune fille veut éblouir. Mais que cette pureté fût évidente, il ne s'en réjouissait même pas. L'hiver passa ainsi. Le soir de mars où André Charme annonça qu'il partait pour Constantinople, ses parents le destinant à la carrière diplomatique, Antoine s'effraya. Comment Élisabeth, fragile, malade maintenant, il le voyait, supporterait-elle l'absence de ce délicat compagnon? Et la dernière soirée que les jeunes gens passaient ensemble parut à Antoine Arnaud si insignifiante qu'il s'irrita d'avoir tant souffert par eux. Il n'était même pas ému, semblait-il, autant que de nouveaux fiancés qui se sont promis leur âme et qu'un destin cruel sépare. Comme il ne restait plus que quelques moments avant les adieux du jeune homme, Antoine prit plaisir à les quitter, à supposer leurs mièvres propos, leur malaise, leur embarras. Il faisait clair encore dans la pièce par ce crépuscule de mars. Élisabeth regardait Antoine, et elle souriait, de penser qu'en lui disant adieu, elle pourrait serrer plus fortement la main du jeune homme, ce qu'elle n'avait jamais fait, car tous deux étaient timides. André parlait, il parlait de l'Orient, de Constantinople, et Élisabeth regardait les lèvres et les dents, le sourire charmant, attirant, luisant. Elle trouvait émouvant que ce sourire, étant si délicieux, dura ainsi, qu'il fut en même temps un moment rapide de l'être et sa structure même. Elle s'amusait de ce que André lui plut tant. Elle était assise en face de lui et leurs regards s'avançaient. Que se disait-il? Rien. Ils se voyaient pour la première fois. Puis, elle entendit la voix d'Antoine dans l'escalier. Il montait. Il allait venir, il allait entrer. Il n'y avait plus qu'une minute pour elle. Alors, avec la force directe du regard qui s'empare de l'objet qu'elle a choisi, elle se leva et, appuyant ses deux mains sur les épaules du jeune homme, jusqu'à sentir et presser les os, féroce comme l'époux quand il attire et quand il marque, elle le baisa sur la bouche. Et elle sentit que bondissait en elle une violence et une puissance pareille à la muse de Wagner, bacchante terrible qui parcourt tous les sommets de la musique en criant à son invisible amant « J'ai faim de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. » Antoine approchait. Il ouvrit la porte. « Ah, revenez !» lui dit Élisabeth en souriant doucement. « Est-ce son départ? Mais lui et moi ne savons plus quoi nous dire. » Et André se levait, comme il faisait toujours, respectueusement, dès qu'il voyait le maître qu'il admirait. Chapitre 18. Un azur plus doux que des lacs, plus beau que l'idée qu'à 16 ans on se fait de la Grèce, entrait dans la chambre où Élisabeth mourait. Antoine Arnaud auprès d'elle ne pensait à rien. Il avait les yeux fermés. Ceux qui, en Orient, meurent les veines ouvertes, doivent connaître cette langueur et ce délire. Il ne voyait pas et n'entendait pas. Martin le nôtre tenait les mains de la mourante. Elle pria d'ouvrir davantage la fenêtre. Comme Goethe, qu'Antoine Arnaud avait tant aimé, la jeune fille qui mourait demandait plus de lumière. Dans son cerveau pâle et brisé, elle comprenait que la vie finissait. Elle n'avait pas très peur parce qu'elle souffrait. Elle s'étonnait de finir. Le soleil entra, elle vit le jardin, et comme ses douleurs cessaient, une présence affreuse de l'âme envahit le corps épuisé. De toute sa force, elle vécut. Elle vécut avec une mélancolie surhumaine, une mélancolie plus sourde, plus impitoyable qu'un bourreau, avec la mélancolie des morts, ce que peut être la fin des choses, la fin de vivre à 20 ans. De sa maigre main, elle comprimait son cœur effrayé. Elle comprimait son cœur et regardait la vie et les derniers bruits de la vie. Ses pensées oppressaient son visage et l'infinie pitié sur elle-même regardait par ses fixes yeux. Ainsi, elle mourait faiblement par une journée lente et traînante dans l'odeur de l'éther vague, du pavot, de la valériane, cette âme qui avait en soi de quoi briller comme un héros, comme Jeanne d'Arc, quand elle crie debout sur ses étriers, comme Iseu terrassée d'amour, et qui chante. Qui eût souhaité mourir, ivre d'orgueil et de multitude, dans une salle où éclate, en se rompant les veines, l'ardente orchestration, et tandis que 600 voix jetteraient avec elle son dernier soupir. L'odeur d'éther mettait un goût de sucre, de folie et de crise, une inépuisable langueur dans cette dolente pièce. Élisabeth se représentait-elle bien ce que c'est que la mort? Quelque chose d'épouvantable et d'ordinaire, qu'on n'essaie pas, qu'on ne voit pas de foi, qu'on va connaître et oublier, quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui est là, tout près, qui vous attend, qui avance, un obstacle glauque et morne, où l'on se cogne, où l'on tombe. L'odeur de l'éther était si forte qu'Élisabeth ne rêvait pas à son aise. Elle sentait bien que c'était l'éther, qu'elle était dans une chambre de malade, et puis elle l'oubliait encore et elle rêvait à des jardins divins. Sur un petit champ, sur 2 notes, elle parlait de ses jardins, jardin Giulia, jardin Melzi, Somariva, Cerbelloni. Mais ses pensées se déformaient et un malaise inconcevable, une nausée forte comme la mort, enfin déjà la mort, déjà envahissait les beaux jardins. Quoique Antoine Arnauld perçut cette plainte monotone avec un religieux et terrible amour, il ne put s'empêcher à un moment de poser sa main contre son oreille. Et noyé de douleur, il comprit une seconde que l'endurance auprès des malades bien-aimés n'était pas infinie. Par la fenêtre ouverte, on voyait monter le printemps. La jaune lumière du jour glissait son miel inépuisable et toutes les gazelles bleues de l'air bondissaient joyeusement. Sur les petits arbres d'avril, c'est à peine le feuillage, mais des houppes, des flocons et d'un vert inespéré, un vert de soleil fondu dans du liquide ivoire vert. Élisabeth maintenant respirait plus doucement. Quelles sensations ont les mourantes? Voit-elle les beaux paysages de leur voluptueuse vie? Les matins gais comme des promesses, une petite baie d'azur pâle, un soir d'été où se balance une barque amarrée, rêveuse comme une indécise amante. Voit-elle le bel hôtel de Milan, sous les arbres orgueilleux, et le plaisir de porter au milieu des étrangers une âme qui a son amour? Voit-elle le moment où le bonheur commençait, où l'on pense « c'est pour toujours » Évoque-t-elle les chaleurs de Venise, le verre d'eau froide au café des esclavons, le bruit doux du bateau qui partait pour Fusine, et plus loin, dans leur enfance, se rappelle-t-elle l'aurore et ses chants d'oiseaux, les couchers du soleil rouge, qui en août tombaient d'aplomb sur les vignes de Montreux? Imagine-t-elle les 12 endroits de la terre qu'elles ne connaîtront jamais, les futures jeunes filles qui trembleront d'espoir sous le pesant feuillage où des insectes phosphorescents font la lumière dans un beau soir des Baléares. Imagine-t-elle l'arrivée au port de Malaga par un ciel orange et vert, les quais encombrés d'ardeurs lourdes, de goudron et de vin, et le plaisir pour les belles voyageuses dans la foule des indigènes, des marchands, des matelots, d'éveiller soudain, par un sourire furtif sur un fort et brutal visage, l'audace et la convoitise? L'agonie se prolongeait. Antoine, à un moment, regarda sa montre et il eut comme une pensée nette et dure, le sentiment que le temps était lent, qu'il était de meilleure heure qu'il ne pensait. Il dit d'un ton naturel, « Tiens, il n'est que 5 heures. » Mais il n'avait pas l'air vivant. Quoiqu'elle mourût de larmes, Madeleine, comme elle ne pouvait rien et qu'on l'appelait dû aller faire jouer les petites filles. Élisabeth remua sur l'oreiller son pâle visage, regarda la fenêtre claire. « Ah, c'est le divin printemps. Tout l'air mobile brille si fort que les aiguilles vertes des pins semblent enfilées d'argent. Est-il vrai, Élisabeth, que vous puissiez mourir? Voici le printemps. Il est, comme je vais vous le dire, et beau, comme s'il naissait pour la première fois. C'est l'immense mythologie. Par les doigts blancs des déesses, toute la terre est soulevée. Et voici la pâquerette, l'ovale et jaune jonquille, la jacinthe, en sucre tissé, les lilas, longue boule d'odeur. » Étendant sur le ciel bleu sa verdure subtile et délicieuse, la branche large du cèdre semble une fougère géante pressée sur un herbier divin. L'azur est aujourd'hui si fort que si on le regarde longtemps, il aveugle, il crépite, il tourbillonne, il s'emplit de vrilles d'or, de givre chaud, de diamants pointus, radieux, de flèches, de mouches d'argent. Il est tel que l'on n'a besoin de rien pour être heureux, ni de la musique, ni d'un bel espoir, ni de son amant. On est heureux parce que le ciel descend jusque sous nos pieds et nous élève dans la nue. Vous, sous la terre, Élisabeth, serez une morte voilée. Ah, que vous avez cherché la vie. Petite fille, on vous voyait poursuivre des parfums dans l'air pour leur dire « Je vous aime ». S'il fallait que votre être rendît à la nature exactement ce que vous avez pris d'elle, toute une moitié de votre âme retournerait à la rose. Dans le jardin, sous vos fenêtres, un petit cerisier fleurit. Vous serez morte, Élisabeth, vous, dont le regard brillait d'amour à l'aurore, quand de la baie bleue d'Antibes, vous voyiez se lever sur les Méditerranées l'île de Corse flamboyante. Vous avez respiré l'espace avec tant de profonds élans que toute votre chair reste pénétrée d'arômes. Vous fûtes une telle créature humaine que dans votre cœur vous asservissiez le monde, et la lune du soir était une de vos suivantes, et l'aurore votre demoiselle d'honneur. Mais un petit cerisier qui fleurit est plus éternel que vous. Voyez-le tout couvert de ses blanches fleurs, innocent, aveugle et doux. Il est la vie et la vie. Peut-être, Élisabeth, serez-vous un petit cerisier blanc. Ah, que l'air est là ce soir. Il tombe comme un châle de soie dont on ne tient plus les bords. Peut-être serez-vous un petit cerisier blanc. Vous aurez plus de 30 fines branches qui joueront avec la nuit. Être un arbre blanc dans la nuit, c'est toute la poésie. L'air de la nuit brise de tristesse les vivants. Il est secret, étrange, humide, plein de mystères et de signes, mais il est familier aux morts. Il est agréable au feuillage. Les morts et les arbres n'ont pas peur la nuit. Et si, dans cet air noir des nuits d'été, parfumé de frais tilleuls, de vanille, de laurier, il passe un chant de jeune homme, une de ces chansons langoureuses par lesquelles, sur la douce terre, on aime, car vous le savez, on aime par les chansons et les nerfs, par les parfums et le sang, enfin, par la volupté. S'il passe une de ces chansons, prenez-la, elle est pour vous. Ah, mieux que le rossignol, le passionné rossignol, plairont à votre ombre tendre des cris que jettent le soir les sensuels jeunes hommes. Dans la chambre, la vieille gouvernante d'Élisabeth, qui depuis le matin pleurait, s'arrêtait de pleurer, commençait à s'habituer. Depuis 14 heures que durait cette agonie, elle acceptait la fin de son enfant. C'était une chose qui ne l'étonnait plus, qui s'établissait, qui allait vers l'avenir. On percevait les bruits habituels de la maison, les portes et le rire des enfants. Antoine Arnaud ne bougeait pas. Autour du lit de la jeune fille, Martin le nôtre était actif et adroit, occupé comme un ouvrier, et par moments il s'asseyait et paraissait attendre. Le ciel changeait. À 8 heures, il y eut une bourrasque de pluie. Élisabeth regardait du côté de la fenêtre. Dans le pin luisant d'eau, un oiseau s'effrayait. Le vent balançait la branche et l'oiseau. La pluie entrait. Martin se leva et ferma la fenêtre. Vers 9 heures du soir, Élisabeth poussa un calme soupir. Antoine ne semblait point avoir compris. Comme Élisabeth était morte ce soir-là, Antoine Arnaud mourut quelques jours après. Ainsi, il lui témoignait son amour. Mais comment put-il jamais lui témoigner son amitié qui était au-dessus de son amour ? Fin du roman.